Presque 15h04 sur France Inter. Là-bas, si j'y suis, c'est votre rendez-vous avec Daniel Mermet.
Je fais un appel au secours parce qu'à Rennes, il y a une jeune femme de 46 ans qui est morte de froid cette nuit. Je viens d'appeler 115 pour dire pour la deuxième fois que je peux loger quelqu'un. Et ce que j'apprends, c'est innominable. C'est-à-dire que les 115 ne sont pas rattachés entre eux. Donc, s'il y a quelqu'un qui crève à Rennes, parce qu'il n'y a pas de place à Rennes, eh ben, le Finistère ne le saura pas. Et ça, je trouve ça scandaleux. Maintenant, ça commence à bien faire. Les banques, c'est pareil, les assureurs, c'est pareil. Alors, vous avez bougé votre cul. C'est inimaginable, je ne veux pas le supporter. Et on ne peut pas laisser des gens crever comme ça dans la rue, non? On est en 2010, presque en 2011. Non, mais c'est quoi ce cirque? C'est n'importe quoi. Oui, je suis en colère. Et très en colère de savoir qu'une jeune femme de 46 ans, parce qu'elle avait un chien, elle n'a pas pu aller dans un refuge. Oui, je suis en colère.
Bonjour. Voilà, chaque jour, les avertissements fusent de partout, demandant à Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à Alassane Ouattara. Alors, je voudrais demander aux uns et aux autres d'analyser la situation avec un peu plus de recul. En 2000, lorsque le général Guéhi a suspendu le processus électoral pour se proclamer vainqueur, les Ivoiriens sont sortis de façon inattendue pour manifester jusqu'à son départ, avant même que Gbagbo n'ait eu à lancer son appel. Et on n'a pas eu besoin que les populations de l'intérieur du pays se rejoignent à celles d'Abidjan. Or, cette fois-ci, on n'observe pas le même engouement comme en 2000, ne serait-ce qu'à Abidjan. Alors, question, même si les Ivoiriens semblent déçus de Gbagbo, veulent-ils vraiment de Ouattara? Par ailleurs, l'armée, la police, la gendarmerie semblent visiblement soutenir Gbagbo. Alors, qu'adviendra-t-il de ces corps si jamais Gbagbo quitte le pouvoir au profit de Ouattara? Ce dernier va-t-il le dissoudre et s'appuyer sur l'armée de Soro, faite de déserteurs et de jeunes enrôlés ça et là? Ou alors, il va demander à cette armée qu'il a défiée pourtant de se mettre à son service? Voilà, ce sont là autant de choses auxquelles je voudrais qu'on essaie de méditer. Au revoir.
Salut Daniel, Sébastien Aix-en-Provence, appareil. Brice Hortefeux condamné une fois de plus. Mais comme dit le camarade, qu'ils s'en aillent tous. Hein, une république propre, ils avaient promis. Voilà, mais j'espère que ça arrivera.
Bonjour. Je voulais vous dire que j'ai pris l'avion d'Orly le jeudi 9 décembre pour aller à Bamako, au Mali. Et en arrivant dans l'avion, ma place était tout au fond de l'avion. Il y avait trois gars très baraqués qui cachaient la dernière place de l'avion, la dernière rangée. Et moi, j'étais devant cette dernière rangée. Et j'ai tout de suite compris de quoi il s'agissait. En fait, il y avait une jeune femme qui avait même pas 30 ans, avec deux enfants très jeunes. Le plus jeune devait avoir 2 ans, l'autre 4 ans. Donc trois personnes étaient gardées par trois molosses qui m'ont tout de suite fait comprendre qu'il ne fallait pas que je cherche d'histoire et que je ne m'en mêle pas. Je me suis assis à ma place, j'étais avec d'autres amis, on partait à plusieurs. Et cette dame nous parlait avec quelques mots d'anglais, elle disait « please help me ». Elle pleurait et elle a pleuré pendant 2 heures. On était tétanisés, on ne savait pas quoi faire. Voilà ce qui se passe. Sur une ligne normale de Royal Air Maroc, c'était le vol AT-765 qui partait vers 16h, jeudi 9. Cette dame, on a appris qu'elle était Sri Lankaise. Son mari avait déjà été ramené manu militari dès son arrivée. Et elle, on l'a ramenée à Casablanca. Il y avait une escale à Casablanca et on allait la lâcher à Casablanca. Sans rien, sans connaître ni la langue, ni le pays. J'imagine sans moyens. Voilà, je peux vous dire aussi que pour le vol du retour, avant-hier, il n'y avait pas de Français qu'on ramenait manu militari en France. À bientôt.
C'est bien ce mardi, le 21 à 20h30, que se tiendra le deuxième repère des AMG de Montauban, après le succès du premier repère de novembre. Le thème en décembre, et on n'a pas peur, c'est « Gauche n'arrive pas à construire pour gagner ». Nous en débattrons autour de Max. Marx n'a pas pu venir. Alors nous serons donc au Diablotin, 51 rue Sapiac, Je répète, ce sera le mardi 21 à 20h30. On vous attend nombreux et plein de bonne humeur. À mardi.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG. La loi HPST, dite loi Bachelot, a supprimé l'appellation de service public hospitalier. Elle ne parle plus que d'établissement de santé. Elle cherche à transformer l'hôpital public en entreprise. Pour être rentable, l'hôpital devra sélectionner les pathologies et les patients et diminuer le nombre de personnel. Moins d'infirmières, moins d'aides-soignantes, moins de médecins, moins de secrétaires, moins d'assistantes sociales. Il est prévu de supprimer 20 000 emplois dans l'ensemble des hôpitaux. Pour défendre votre hôpital public, vous pouvez signer la pétition en ligne sur Internet à l'adresse pétition avec un E, donc petition-o-mdhp.fr, petition-mdhp.fr/index.html. L'association de défense, le mouvement de défense de l'hôpital public, compte envoyer cette pétition, qui est déjà signée par plus de 720 000 personnes, au gouvernement et au Parlement, pour faire avancer les choses et défendre notre hôpital public. Qu'on se le dise et qu'on signe cette pétition en nombre. Au revoir.
Petite leçon de propagande. Edouard Bernays, qui a inventé l'art de la propagande, a été copié pour de multiples raisons. En ce qui concerne la peur des terroristes islamiques, les différents gouvernements français ont appliqué cette propagande afin de faire peur à leurs électeurs et surtout de focaliser leur haine sur la religion islamiste plutôt que sur les décideurs qui ont fait doubler les loyers en 20 ans, diviser par deux notre pouvoir d'achat en 30 ans ou délocaliser 70% de l'industrie française. Et ça marche, car les Français sont tellement imprégnés par ce matraquage de cerveau par tous les grands médias qu'ils sont persuadés que les musulmans sont les plus dangereux. Il suffit que TRF1 ou même France 2 parle d'un intégriste islamiste qui a raté son attentat pour continuer à imbiber les cerveaux des électeurs de mensonges éhontés. La preuve, durant les 10 dernières années, 99% des attentats sur notre territoire ont été provoqués par les Corses ou les Basques, et pourtant nous n'avons pas peur de ces fous intégristes violents. En 1933, Hitler a pris le pouvoir en pointant du doigt sur les boucs émissaires juifs. En 2007, Sarkozy a fait de même en pointant du doigt les intégristes musulmans. Il suffit de taper sur Internet la liste des attentats en France en 2009 ou en 2010 et on voit parfaitement que les attentats sont créés par les Corses ou les Basques. J'entends bien pas le peuple corse ni le peuple basque, mais les fous qui se servent de la violence pour se faire entendre.
Oui, bonjour à tous les AMG. Daniel Mermet, au cours de la dernière série d'émissions sur la République démocratique du Congo, nous montre les horreurs qu'endurent les populations de ce malheureux pays. Bah, il a aussi évoqué le rôle de Léopold II, dont le Congo était la propriété personnelle. Ce qu'ont subi ces populations martyres à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle a fait l'objet d'une enquête très fouillée de Conan Doyle. Eh oui, le papa de Sherlock Holmes. Il montre que des millions de Congolais ont perdu la vie, assassinés au seul bénéfice du monarque. Le crime du Congo belge, de Conan Doyle, et il a été réédité, sous ce même titre d'ailleurs, par les Nuits Rouges. Il est postfacé par Colette Brackman, que nous avons entendu, et il est suivi par le tout aussi édition Le Congo français, écrit à l'époque par Félicien Chalet. Je vous en recommande vivement la lecture. C'est très dur, mais ça met bien en lumière, une triste lumière, sur ce qu'est le colonialisme. Salut à tous.
Jamais les oreilles loin du front, grâce aux AMG, aux auditeurs modestes et géniaux de là-bas, si j'y suis, une petite remarque sur la construction du bouc émissaire. C'est vrai que la construction du bouc émissaire est une vieille coutume chez les démagogues, mais je ne suis pas sûr que l'amalgame Sarko égale Hitler fonctionne vraiment bien. Concernant le livre de Conan Doyle sur la conquête du Congo par Léopold II, un livre excellent que j'ai lu, mais où Conan Doyle quand même dénonce ce colonialisme-là en indiquant sa préférence pour le colonialisme à l'anglaise. Sur le même thème, je rappelle le livre de Adam Hochschild, très difficile à prononcer, Hochschild, qui s'intitule « Les fantômes du roi Léopold ».« Les fantômes du roi Léopold », ça a été récemment réédité. Je vous conseille de sauter sur ce livre si vous voulez vous faire une petite idée de ce qu'a été la colonisation du Congo belge par Léopold II, toujours célébré en Belgique, le roi bâtisseur, et qui donne lieu actuellement en Belgique, puisque c'est le 50e anniversaire de l'indépendance du Congo, à des polémiques et des bagarres assez passionnantes. Aujourd'hui, détente, on retourne en arrière, on va célébrer la chute du mur de Berlin, mais à notre façon, c'est-à-dire qu'on va aller à la maison d'envie. Dans la maison d'envie, je ne vous en dis pas plus, sauf que comme d'habitude, vous allez voir comment là-bas, si j'y suis, est fidèle à sa mission, le service public d'abord, ensuite la petite entreprise que nous soutenons et dont nous faisons la promotion, et puis aussi l'écologie et tout ça à Berlin, à la maison d'envie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Et surtout, n'oubliez pas de venir en vélo.
Bonjour Daniel. Dis, j'ai cru comprendre ce matin que certains journalistes de France Inter étaient un peu choqués qu'on propose une prime aux recteurs d'académie. Mais est-ce que c'est vraiment scandaleux ? Non. Pour accéder à cette fonction, cette charge morale qu'est la gestion du système éducatif, il faut avoir fait des études au sens avoir fait des humanités, de la philosophie humaniste, et surtout, pour accepter cette formation à forte charge symbolique et de responsabilité sociale et morale, il faut avoir souci de formation, de pédagogie, et conscience de son rôle social, de ses responsabilités, et bien sûr, des réalités du terrain. Alors, rien de choquant à ce que soit proposé une prime au meilleur d'entre les recteurs, car simplement en considérant ce qui précède, la charge symbolique de leur fonction, eh ben, ils vont la refuser pour démontrer qu'ils ne sont pas du tout dans l'état d'esprit de mercenaires. Ils vont la refuser. Donc on a bien fait de leur proposer pour qu'ils puissent la refuser. Sinon, comment comprendre qu'ils soient recteurs d'académie ?
Madame de Romilly est morte. Elle avait 97 ans, c'était une académicienne. Une grande dame et notre Zidane vénéré a fait une déclaration. J'ai trouvé un peu ridicule. Et il m'est revenu en tête un endroit où j'avais caché ça sur mon ordinateur. Un mot de Vauvenargues au 18e qui disait « Les sots usent des gens d'esprit comme les petits hommes portent de hauts talons ». Bonne journée.
Là, on est au numéro 61. En principe, si on ne s'est pas trompé de numéro, c'est la maison d'envie, c'est ça ?
Il y a des kleines sexy adresses.
Maison d'envie, c'est là-haut. Voilà, alors on entre. Oh, j'aperçois une lumière rouge. Il se pourrait bien que ce soit là. Une petite cour, des petits vélos. C'est bien familial. C'est bien propre. Là-haut, je vois écrit « Open ». Serait-ce là-haut ? C'est possible, mais c'est bien discret. Il faut savoir que c'est là. Voilà. Et alors ? Ah oui, « Maison d'envie », c'est écrit sur la porte.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec Guy Ventil, la maison d'envie.
Flight number 2, arriving from New York.
Ah ben voilà, la maison. Wouhou, j'aperçois une dame dans un état de
gerade durch.
Hello.
Voilà les petites chambres. Voilà le salon avec les madames qui sont très déshabillées, qui sont en porte-jartelle, qui sont en sous-vêtements, très déshabillées, quoi, finalement, les dames. Hein. C'est un tout petit salon, elles sont en train de regarder la télé. Voilà. Voilà.
Et elle me dit maintenant, wie lange. Und bringt das Geld. Das muss ich erst fertig.
Je dois encore faire quelque chose là. Il y a Lucie qui a un client et elle doit me dire combien de temps ça dure et je dois lui donner l'argent. Donc pour l'instant, on va pas commencer tout de suite.
D'accord. On attend.
Et dis-moi, t'as pas chaud toi avec ton écharpe, ton manteau, etc. Parce que tout le monde est beaucoup plus dévêtu que toi quand même.
Oui, mais remarqué. J'ai me déshabillé. Mais ce qu'il y a, c'est que je tiens le magnéto là. Tu vois, je suis rentré avec une grosse écharpe autour du cou. Voir 60 minutes 90€, 45 minutes 70€, 30 minutes 50€, 20 minutes 35€, 10 minutes 35€ aussi, c'est comme 20 minutes. Non. Alors, tarif avec la réduction. Alors, 60 minutes ça fait 90, 45 minutes, bon, ça fait 5€ de moins. La réduction, c'est 5€. Bon. Et alors, comment on peut obtenir la réduction? Alors, la réduction, on l'obtient avec un billet valable des transports publics de Berlin. Ou alors, c'est pour les clients qui viennent nous visiter à vélo. Voilà. Si on vient en vélo ou... par les transports en commun, on a une réduction de 5€. Les frais des services sexuels sont à négocier personnellement entre les dames et les invités. La maîtresse de la maison en prélève 50%. Voilà, vous avez tout compris. On est à la maison d'envie. Ça s'appelle ainsi la maison d'envie. C'est à Berlin. Ne vous inquiétez pas, on va parler de la chute du mur. Mais ce qui nous intéressait, c'est le côté écolo de la maison d'envie. C'est écolo. Une remise de 5€ pour ceux qui ne prennent pas leur voiture pour venir à la maison d'envie. Hein ? Ça, c'est bien, non ? Nous, on a le souci de l'écologie dans là-bas, si j'y suis, et on a pensé que ça valait une visite que nous allons faire ensemble, chers amis, jusqu'à 16h. Dans là-bas, si j'y suis.
Ich schilder gern deine Apfelsine. Ich hol nur schnell meine Flexmaschine. Brauchst du nen Haken in der Besenkammer? Hau ich ihn rein mit dem Vorschlaghammer. Fahr ich im Kreise schon seit Tagen, dann werd ich trotzdem keinen fragen. Wenn ich mal irgendwas gar nicht kann, dann fang ich trotzdem damit an. Testosteron ist mein Hormon. Ich bleibe immer in Aktion. Weiß ich auch nicht, worum es geht. Ich bin die Top-Kapazität. Ich löse Probleme schnell und erdig. Zack, 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 fertig. Am liebsten grill ich halbe Schweine, das gibt mir Power ungemeine. Ich hab am ganzen Körper Haare und wasch mich alle Jubeljahre. Mein Ziel ist schneller, höher, weiter, denn ich bin lieber tot als weiter. Wenn ich nix sag und gerade ausguck, dann bring ich mein Gefühl zum Ausdruck. Testosteron ist mein Hormon. Ich habe schlichte Emotion. Ich hoffe, dass heute noch was geht. Und zwar schon seit der Pubertät. Ich mache Liebe hart und ehrlich. Zack, zack. zack, zack, fertig.
C'est marrant, hein? C'est vraiment une petite... À quoi ça ressemble, un petit intérieur de HLM n'importe où au monde, quoi. C'est très modeste, hein? Et puis alors, tout le matériel, t'as vu, d'hygiène, de machin, de trucs, là, il y a tout ce qu'il faut, hein? Et puis les petits coffres-forts, regarde, avec des comptes... Ah, c'est un par fille, elles doivent mettre leur économie dedans, non? Ah ouais, c'est du travail, on empêche, hein, c'est du boulot. Il faut aller à la caisse et on écrit 50 et on rend la monnaie.
Sur le paiement. Ah, justement, il y a un des invités bio.
Er wollte natürlich noch weniger. Und dann habe ich gesagt, kein Bazar. Take it or leave it. Nimm es oder lass es.
Il voulait avoir encore plus de rabais que le rabais qu'on propose déjà. Alors je lui ai dit, prends-le ou laisse-le. Mais je ne fais pas plus de rabais.
Alors qu'est-ce que vous faites comme rabais en fait?
Bezahlt 5 euros weniger. Bei 20 Minuten statt 35, 30 Euro. Bei einer halben Stunde statt 50 Euro, 45 Euro.
Il paye 5 euros en moins, donc pour 20 minutes, à raison de 35 euros, il paye que 30 euros. Et pour une demi-heure, normalement à 50 euros, il paye 45 euros.
D'accord, mais qui peut bénéficier de ces rabais?
Menschen, die nicht mit dem Auto oder mit dem Motorrad kommen.
Les gens qui ne viennent ni en moto, ni en voiture.
Also Fußgänger, Radfahrer... Tram und Metrofahrer.
Donc les gens qui prennent les transports en public et ceux qui viennent à pied ou en vélo.
Donc d'accord, vous favorisez l'écologie. C'est le bordel qui favorise les écolos.
In Berlin ins Leben gerufen hat, oui.
Oui, c'est nous qui à Berlin avons créé ce mouvement, oui.
D'accord, donc si je viens avec mon ticket de métro.
Yeah. Oui.
J'ai 5 euros
yeah,
de
yeah, rétro. Ah, yeah, okay. Yeah.
Et si j'arrive avec mon casque de vélo, j'ai 5 euros. Voilà, c'est le bordel de Nicolas Hulot ici. Ah voilà, et voilà où on se trouve, à la maison d'envie. Vous avez compris que notre but à nous, et c'est toujours le même, dans la base où j'y suis pour France Inter en général, c'est le sens du service public et, pour ce qui nous concerne, la lutte pour l'écologie et le Grenelle de l'environnement. Et là, on voit que c'est quelqu'un, Regina, qui est la patronne de cette maison d'envie, qui fait quelque chose de très important pour Yann Arthus Bertrand et pour Nicolas Hulot. Il est très important, lorsque vous vous lavez les dents, de couper le robinet pendant que vous frottez. Oui, vous frottez les dents. Vous n'avez pas besoin de laisser couler le robinet. Ben, si tout le monde fait ça, on est sauvé. Eh bien, Regina, c'est ce qu'elle a compris, c'est que c'est inutile de venir chez elle à la maison d'envie en voiture. Elle favorise ceux qui viennent par les transports en commun et en vélo. Ça, c'est la première raison pour laquelle nous sommes là. La seconde raison, c'est que Regina a des problèmes parce que c'est la crise. Et la crise frappe tous les poufs, ça s'appelle des poufs, c'est les bordels, voilà. De Berlin, et pas seulement, voilà, la crise, voilà, ça manque d'enthousiasme. Donc nous, l'une de nos missions, de vocation même, je dirais, c'est de soutenir l'écologie et soutenir la petite entreprise. Celle-ci s'appelle la Maison d'Envie, et la patronne, c'est Regina. Ah, comment vous vous appelez ?
Regina.
Regina. Regina. Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le métier, vous ?
Knapp 10 Jahre.
10 ans.
10 ans.
Ja,
10 ans.
Ich habe sehr spät angefangen und
J'ai commencé assez tard et voilà.
Vous faisiez le métier au moment de la chute du mur ?
Nein, habe ich nicht. Ich bin erst 1994-96 in diesen Job gegangen. Also ich weiß es nicht mehr. Nein, als die Mauer fiel, habe ich Versicherungen verkauft.
Non, j'ai commencé ce travail en 1994-95, au moment de la chute du mur, je vendais des assurances.
Ici à Berlin ?
Ja, ja, natürlich, ja.
Et vous vous souvenez de la chute du mur ? Comment c'était pour vous ?
Ich muss das mal ein kleines bisschen ausholen. Ich bin geboren in der DDR, in Magdeburg.
Je suis née en Allemagne de l'Est, à Magdeburg.
Und habe 1982 einen Ausreiseantrag gestellt nach Westdeutschland.
J'ai fait une demande en 1982 pour pouvoir aller en Allemagne de l'Ouest.
1984 sind wir aus dieser Diktatur ausgereist, haben sie uns ausgelassen.
Also et en 1984, ils nous ont laissé sortir, nous avons quitté cette dictature.
Über die Zeit dazwischen, 82 bis 84, habe ich heute nicht den Nerv zu reden.
Je ne préfère pas parler de cette période entre 1982 et 1984 qui a été assez difficile.
Ah, un client. Ah, on va voir, il y a un client. Vous êtes né, vous, en RDA, et c'était bien quand vous étiez gosse, quand vous étiez jeune?
Es ist zu weit auszuholen. Also ich hatte eine tolle Kindheit, aber mein Vater hatte immer ein Problem mit diesem diktatorischen System.
J'ai eu une enfance heureuse, mais mon père a toujours eu un énorme problème avec ce système dictatorial.
Er hat am 17. Juni 1953, ich war 6 Tage alt, das war dieser Generalstreik im Osten. Dort wurde neben ihm ein 14-15-jähriger Junge erschossen.
Il a participé aux émeutes du 17 juin 1953.
Ah bon?
Je venais de naître. Et il a vu un jeune garçon de 15 ans mourir abattu à côté de lui.
Die Russen sind ja mit Panzern aufgefahren und haben geschossen, natürlich. Ja.
Oui, les Russes sont arrivés et ont tiré sur la foule.
C'est ça, 17 juin 1953. Alors là, on est quand même dans un drôle d'endroit, parce que le témoignage de Regina qu'on est en train d'entendre, bon, c'est un témoignage comme on en a entendu beaucoup, sauf qu'on est dans un bordel, il faut bien dire les choses. On est dans un bordel à Berlin, et Regina est la patronne, la tenancière de ce bordel. Il y a deux filles qui on vient de voir là, qui sont sorties quand on est arrivé parce qu'elles avaient du travail, en toute petite tenue, quoi, comme on peut l'imaginer. Et c'est une petite pièce, tout à fait une salle de séjour, comme dans un HLM, quoi, quelconque, avec un grand canapé où les filles s'assoient, avec un petit bureau où tout est bien rangé, un petit calendrier, un petit téléphone, une petite lampe, une petite agrafeuse, et puis une petite cuisine, un petit coin cuisine. Je décris un peu l'ambiance. Une télé, puis là-bas des petits coffres forts, des petits coffres où les filles mettent leurs affaires précieuses, parce qu'évidemment, comme elles sont très déshabillées, si elles ont des bagues ou des choses comme ça précieuses auxquelles elles tiennent, ou de l'argent, tout simplement, eh ben, il faut que ce soit en sûreté.
Und dieses Schreiben, ich hatte das Sorgerecht auf meine...
Un client. Vous vous souvenez du moment où vous avez franchi la frontière, où vous êtes sorti de la RDA et vous êtes retrouvé en Allemagne fédérale?
Ja, ja, natürlich. Es waren wildfremde Menschen, die mit in diesem Zug waren und die hatten Champagner und als wir dann drüber waren, oder Sekt geköpft und getrunken. Wildfremde Menschen haben sich in den Armen gelegen. Wir kannten uns nicht, ja, das war irre.
Oui, c'était un moment très émouvant. Il y avait plein de gens qu'on ne connaissait pas dans le train, mais qui avaient apporté du vin mousseux. Et lorsque nous avons passé la frontière, tout le monde s'est enlacé, s'est embrassé.
Qu'est-ce qui vous a étonné en premier, quand vous êtes arrivé en RFA?
Die Blumen, die alle echt waren.
Les fleurs qui étaient toutes vraies.
Und diese Menge an Obst.
Et ces quantités énormes de fruits et légumes.
Ich kann es nicht sagen. Es war alles so ein bisschen traumhaft. Es dauert eine Weile, ehe man wieder den Boden der Realität hat. Aber nett, alle nett.
Les gens étaient très sympathiques, mais à ce moment-là, tout était un petit peu comme dans un rêve. On n'avait pas l'impression d'être dans la réalité. Il a fallu un certain temps pour avoir l'impression d'avoir à nouveau les pieds sur terre.
Mais alors, comment vous en êtes venu à la prostitution?
Ich habe in einer Bar gearbeitet. Ich musste ja Geld verdienen und nachts als Barfrau, ne? Die Getränke, auch so wie hier die Frauen.
J'ai travaillé d'abord dans un bar la nuit, donc je faisais le service au bar.
Ich habe ein Vierteljahr lang 7 Tage in der Woche gearbeitet, jeden Tag.
Et je travaillais 7 jours sur 7 j'ai travaillé 4 mois pendant 7 jours sur 7.
Ein Haus weiter war ein Tagesbordell.
Et une...
Un client.
Une maison plus loin, il y avait un bordel de jour.
Die Frauen aus diesem Bordell kamen abends manchmal noch in die Bar. Daher kannte ich die und ich kannte auch den Chef und habe dann gesagt, denkst du, dass ich bei dir arbeiten kann? Und er hat gesagt, ja, klar, Gina, kein Problem.
Et les femmes qui travaillaient pour ce bordel de jour venaient parfois boire un verre chez nous. Hein, et donc, je connaissais aussi le tenancier de ce bordel. Et donc, je lui ai demandé... Et donc, je lui ai demandé un jour, oui, est-ce que tu penses que ça serait possible que je travaille pour vous?
Ah mais là, il faut noter l'heure. Ah, on a quand même le droit de... un verre d'eau gratuite, bienvenue quand même. Hein. Ça, c'est pas dans le... Hein. Ça, c'est écologiste.
Quelle langue, ça? Das ist sicher polnisch, denke ich mal.
Polonais.
Ah, donc la fille blonde qui était là, elle est en train de lire un roman polonais, donc c'est une polonaise. Elle a l'air d'avoir beaucoup de clients, la jeune femme polonaise.
Weil sie nur zwei Tage in der Woche da ist, nur Samstag, Sonntag.
Parce qu'elle n'est là que deux jours dans la semaine, le samedi et le dimanche.
Et elle est très appréciée.
Ja, weil sie einen guten Service macht und eben die größte hier ist.
Oui, parce qu'elle fait un bon service et puis elle a aussi une poitrine volumineuse.
Des gros seins, des beaux gros seins.
Ja, ja. Oh. Aber glauben, keine Tasche auf dem Fußboden bringt Geld weg.
Faut pas poser les
sacs à main. Ouais, parce que ça fait perdre de l'argent.
Ça fait perdre de l'argent?
Ja. Es gibt viel Aberglauben. In jedem Bordell gibt es viel Aberglauben.
Ah, il y a beaucoup de superstitions dans les bordels.
Kein grün zum Arbeiten.
Pas de vert pour travailler.
Comme au théâtre.
Ja, ja. Ja.
Nicht grün.
Nicht grün, ja. Nicht pfeifen.
Faut pas siffler.
Ja.
Dans un bordel, il faut pas s'habiller en vert. Il faut pas siffler. Dans un théâtre non plus.
Nicht stricken.
Il faut pas faire du tricot.
Yeah.
Bah, si on tricote dans un bordel, c'est qu'il n'y a pas de client, c'est mauvais signe, c'est décourageant pour le client.
Und wenn keine Gäste kommen, müssen wir Salz streuen.
Et s'il n'y a pas de client, il faut mettre un petit peu partout du sel.
Ah bon? Et le sel fait venir les clients?
Ja, so ist der Glauben.
Et ça marche?
Mal ja, mal nein.
Mais vous le faites, vous le faites.
Ja, natürlich, ja. Ja, klar.
Alors racontez-nous un peu. Bon, alors, vous étiez en train de nous raconter, vous avez demandé à la fille qui travaillait à côté, qui faisait le bordel, si elle pourrait pas faire des passes. Mais enfin, ça vous a pas posé de problème moral ni physique particulier de commencer à faire ce métier. C'était simplement l'argent, quoi.
Ich hatte Glück. ich hatte viel Glück, also er hat ja gesagt und ich bin dahin, natürlich, mein Herz, ne?
J'ai eu de la chance. La première fois que j'y suis allée, évidemment, mon cœur battait très fort.
Und es war damals eine Freundin, Kollegin da, die arbeitete schon 20 Jahre in diesem Job und war so alt wie ich.
J'avais de la chance parce qu'il y avait une autre femme qui travaillait là et qui était une bonne amie et qui avait le même âge que moi.
Und ich habe immer gefragt, Babsi, wie mache ich das? Babsi, wie mache ich das? Und durch sie war es nicht so schwer.
Et donc je lui ai souvent demandé, Babsi, comment est-ce qu'on fait ça? Et donc je pouvais lui poser des questions et je n'ai pas eu trop de difficultés finalement.
Ich sage doch, ich habe Babsi immer gefragt, wie mache ich das? Dann rief mal ein Gast an und sagte, ich möchte Natursekt. Ich sage, tut mir leid, wir haben gar keinen Sekt hier. Und Babsi fing an zu lachen. Ja, warum lachst du, Babsi?
Oui, par exemple, j'ai demandé à Babsi, je l'ai appelé et je lui ai demandé, dis-moi Babsi, qu'est-ce que c'est? Un client m'a demandé du Natursekt, du vin mousseux naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi, je lui ai dit, non, je suis désolée, on n'a pas de vin mousseux ici. Et elle a commencé à rigoler.
Und dann hat Babsi gesagt, Gina, das ist Urin. Der Gast möchte deinen Urin trinken.
Ah, et il a dit, tu sais, Regina, ça veut dire qu'il veut boire ton urine.
Ja. Come in.
Voilà la dame, la jeune fille polonaise qui vient chercher de la monnaie. Ah, c'est assez extraordinaire la situation quand même. Il y a cette fille polonaise qui est bien en chair, et on s'en aperçoit parce qu'elle est très très peu vêtue, là, elle est blonde avec un tatouage sur l'épaule, des seins volumineux, et elle est en train de récupérer sa monnaie pour donner à son client, et elle a sa part à elle, et la part qui revient à la patronne.
Qu'est-ce que c'est pour vous, la politique ?
Politik ist eine Prostituierte.
Ah, un client.
La politique, c'est une prostituée.
Un petit coup de parfum.
Bah oui.
Ja, das würde ich auch so sehen. Eigentlich geht's nur
oui, je vois ça aussi comme ça. En fait, il s'agit que de pouvoir et d'argent.
Un client.
Maison d'envie, schönen Tag.
Vous étiez toujours mariée avec votre fils ou vous étiez célibataire à ce moment-là ?
Nein, ich war verheiratet.
Non, j'étais mariée encore.
Et votre mari s'accommodait de la situation ?
Er wusste das lange, lange, lange nicht.
Pendant très longtemps, il ne l'a pas su.
Ich habe dann gesagt, ich arbeite in dem Bordell als Telefonistin und die Frauen haben mich geschützt, weil mein Mann natürlich immer angerufen hat, wenn ich gerade einen Gast hatte.
Je disais que je travaillais en tant que réceptionniste au bordel hein, et les filles du bordel m'ont toujours protégée quand des fois mon mari m'appelait et que j'étais avec un client.
Die Frauen haben dann gesagt, Gina ist drüben in der Bar, Getränke annehmen. Gina holt Zigaretten, Gina holt Essen, immer irgendetwas. Ja.
Elles ont toujours raconté une histoire. Elles disaient que j'étais en train de chercher de l'alcool ou que j'étais en train d'aller chercher des cigarettes.
Et pendant combien de temps ça a duré ce mensonge?
Ich weiß nicht, 2 Jahre vielleicht, aber ich kann nicht immer mit einer Lüge leben. Und dann.
Peut-être 2 ans, mais je ne pouvais pas vivre plus longtemps avec ce mensonge.
Alors, vous lui avez dit?
Und dann habe ich es meinem Sohn und meinem Mann gesagt. Ganz vorsichtig und er war todunglücklich.
Et après, je l'ai dit à mon fils et à mon mari. Et il a été très, très malheureux.
Ja, aber ich habe gesagt, ich sehe keine andere Möglichkeit. Und dann hat er es akzeptiert, mehr oder weniger, wie es ein Mann akzeptieren kann.
Après, je lui ai dit que je ne voyais pas d'autre solution, et mais après, il a essayé d'accepter, tant bien que mal, dans la mesure du possible pour un mari.
Und wenn ich abends nach Hause gekommen bin, kam er mir entgegen, hat mich in den Arm genommen und hat gesagt, schön.
Il y a un client là qui arrive.
Et quand je suis rentrée à la maison le soir, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit « C'est bien que tu sois là ».
Pour toi, je suis une chrysanthème. Supernova, une étoile précieuse.
passé.
Astéracon.
Pour toi, je suis une dent de lion. La céleste fille multipliée. Pire, un os arrangé.
Mais est-ce que vous pouvez nous dire la part qui revient sur, par exemple, sur une passe à 50 euros, quelle est la part qui revient aux filles?
50% nehmen wir. Also von den 50 Euro kriegt die Frau 25 Euro zurück. Alle Extras bleiben aber bei der Frau. Also Zungenküsse, Französisch total, Anal bleibt alles bei der Frau. Und sie hat alles von uns. Also damit ist es abgedeckt. Sorry.
Okay.
Les filles reçoivent la moitié, c'est-à-dire que sur 50 euros, elles reçoivent 25 euros. Et par contre, tous les extras qu'elles proposent, genre fellation, anal, elles le gardent pour elles.
Nee, Hausdiener nicht. Nee. Nee, Hausdiener brauchen wir gar nicht, Olaf. Ich nicht. Wir sind kein Studio und ich brauche hier keine Haussklaven.
C'est un client qui demande quoi?
Was war jetzt?
Hausdiener, Sklaven. Ich möchte hier keine Sklaven, der hier mit einer Zahnbürste rumrutscht und sauber macht oder geprügelt werden will.
Ah, okay. C'est son étien qui proposait des services maso, en fait, des Sklaven.
Mais il veut être esclave, il veut payer pour être esclave.
Das war ein Putzsklave. Das war einfach ein Putzsklave, der wollte hier putzen und wenn er es nicht ordentlich macht, geschlagen werden. Aber keine Frau macht das hier.
Ah, c'en était un qui voulait, oui, nettoyer partout et s'il ne faisait pas ça correctement, la fille le frapperait, l'insulterait.
Ça, vous ne faites pas ce genre de spécialité?
Non, mais les filles ne veulent pas faire ça.
Aber wir haben eine ganz kleine Ausrüstung. Also ich habe Handschellen da, ich habe eine Peitsche da, aber minimal.
Certaines de nos filles, comme par exemple Lucie, proposent des services sadomaso et on a quelques outils pour ça, mais c'est vraiment minimum. On a des menottes et une petite cravache.
Voilà, on est à la maison d'envie à Berlin, un petit bordel de Berlin que nous avons fréquenté de façon tout à fait professionnelle, puisqu'il offre une remise éco-rabat, un rabais écologique pour ceux qui viennent avec soit leur vélo, soit en transport en commun. Je me souviens, lors de la chute du mur il y a 20 ans, il y avait toute une dimension sexuelle à cette chute du mur. Je ne sais pas si quelqu'un a étudié ça, je le suppose. Mais lorsque les aussi, les gens de l'Est, arrivaient à Berlin-Ouest, ce qui les attendait parmi tout ce qui était supposé les émerveiller, on a vu par la suite que tout ne les avait pas émerveillés à ce point-là, mais ce qui était censé les émerveiller, c'était les sex-shops. Il y avait à Berlin-Ouest, donc, de grands sex-shops lumineux comme des vitrines de Noël, et on a montré, photographié, décrit ces gens de l'Est sortant de leur grisaille et entrant dans ces boutiques, ébahis, stupéfaits, un peu désorientés, en famille, portant l'enfant endormi dans les bras et regardant tout ça. Et voilà, c'était un peu les ploucs, c'était un peu les cousins perdus sortant de leur isolement et de leur prison. Mais par la suite, c'est vrai qu'il n'y avait pas de pornographie à l'Est, enfin, ou très peu, c'était pourchassé, très très peu de prostitution, dit-on, assure-t-on. Mais il y avait aussi une chose, c'est qu'il y avait une sexualité assez libre, et même très libre, en RDA, dans cet état rigide qui voulait tout avoir sous son contrôle. Les citoyens étaient assez émancipés concernant leur vie sexuelle, et notamment les femmes, parce que les femmes avaient un large accès aux études supérieures, au travail, la pilule contraceptive était en vente libre, l'avortement était gratuit, et il y avait une politique familiale généreuse, et ce qui fait que, voilà, il y avait aussi toute une tradition du naturisme popularisé par la culture du corps libre dans les années 70 et 80, si bien qu'en fait il y avait un érotisme ou une vie amoureuse, en tout cas tout à fait libre et naturelle, à laquelle par la suite les gens de l'Est, la frontière ayant disparu, le mur étant tombé, sont tout simplement revenus. Et je crois que ça suit assez bien, je ne sais pas si ça a été étudié, je le suppose, je pense que ça suit assez bien ce qui s'est passé au cours de ces 20 ans, l'étonnement, un certain sentiment d'humiliation, et puis dans ce qu'on avait vécu, je pense aux aussi, voilà, il y avait des choses qui n'étaient pas si mauvaises que ça à cause de la vie, tout simplement, dont on s'était accommodé. On a vécu quand même, trotzdem, à l'Est. Alors, on continue avec cette visite chez Regina. Je vous rappelle notre souci permanent, vous le savez bien, à toute l'équipe de là-bas, si j'y suis, de soutenir la petite entreprise, et la maison d'envie a bien besoin de cette aide. Un client.
Maison d'envie, schönen Tag.
Il y a combien d'hommes qui peuvent passer dans une journée ici? Moi, ça fait 50 par jour, 100 par jour.
Ach, wäre das schön. Das wäre. Das wäre wunderschön. Nein, leider nicht. Wir hängen in der Wirtschaftskrise.
Nous y voilà, la crise. Il faut bien qu'on en parle de la crise.
Ouais, nous subissons la crise économique.
Und ich hoffe, dass die Medien irgendwann mal wieder sagen, es wird besser, es gibt wieder Arbeit, der DAX steigt. Auf diese Nachrichten, positive Wirtschaftsnachrichten, darauf warten wir jeden Tag.
Nous attendons chaque jour que les actualités nous annoncent enfin que l'économie va aller mieux, que le DAX remonte.
Quand est-ce que ça a baissé, les affaires?
Ach, vor über einem Jahr.
Ça a commencé déjà il y a plus d'un an.
Avec la chute des bourses.
50% ungefähr haben wir verloren.
Nous avons perdu 50%.
Nous, on est là pour l'anniversaire de la chute du mur. Qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez avoir des clients pour le 20e anniversaire? C'est bon pour vos affaires?
Wenn es ein Feiertag wäre, ein arbeitsfreier Tag, dann ja. Dann ja. Vielleicht mehr Touristen. Möglicherweise, dass mehr Touristen in der Stadt sind, das kann sein.
Oui, si c'était un jour férié, là, ça aurait peut-être amené plus de clients, mais ce n'est pas le cas. Alors peut-être qu'il y aura plus de touristes.
Un client. Oh, ça va vite, hein. Mais ça va vite, t'as vu le client, là? Alors lui, ça fait combien?
50 euros.
Un client.
Maison d'envie, je vous le dis. Also es, Fragen können die Kunden alles. Das Verrückteste, heute wollte ein Gast, er sagt, er war noch nie in so einem Etablissement, in einer halben Stunde Französisch total, NS, Küssen, nach Anal hat er nicht mehr gefragt und Natursekt, Urin.
Alors aujourd'hui, par exemple, un client est arrivé qui n'avait encore jamais été dans ce genre d'établissement et il voulait avoir en une demi-heure toute la panoplie. Donc avec l'urine, avec la fellation, avec pratiquement avoir tout le programme en une demi-heure.
C'est difficile à réaliser quand même.
Und die Frau hat gesagt, keine Chance, in einer halben Stunde geht das nicht. Das geht nicht.
Et la fille lui a expliqué que c'était pas possible en une demi-heure.
Nous nous efforçons de prendre au sérieux les souhaits de nos clients et de nous y conformer autant que possible. Passez d'abord par notre page Prix et Service afin que vous sachiez dès le départ ce qui vous attend. Nous nous attachons à ce que l'environnement soit sain et agréable pour que vous vous sentiez à l'aise et gardiez un souvenir agréable de votre séjour. Notre établissement est presque entièrement zone non-fumeur. Nous vous offrons gracieusement des boissons non-alcoolisées et le café. Chaque chambre est équipée d'un lavabo, mais bien sûr, vous pouvez également utiliser notre salle de bain avec une douche. L'accessibilité à nos locaux pour les fauteuils roulants est en grande partie créée. Ainsi se présente sur son site la maison d'envie. Alors, on est revenu parce qu'on est des reporters sérieux. Et là, c'était une ambiance un petit peu plus morne. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'est la pleine lune. Et oui, c'était la pleine lune. Et les jours de pleine lune, eh bien, ça ne marche pas. Voilà, c'était une journée calme, comme on dit dans le commerce. Calme. Mais il y avait Sandra. Depuis quand vous faites ce métier ?
15 Jahre.
15 ans.
Alors vous devez les connaître les hommes, non ?
Man hat schon einiges erlebt, ja.
C'est vrai qu'on a déjà vu pas mal de choses, oui.
Quelle idée vous en faites des hommes finalement ?
Oh. Das kann ich nicht beantworten, das ist zu komplex eigentlich.
C'est compliqué de répondre à cette question, c'est un sujet complexe.
Also ich bin der Meinung, dass es gut ist, dass es Prostitution gibt, weil so haben die Männer eine Möglichkeit, Frust abzubauen, Aggressionen abzubauen, sexuelle Befriedigung zu finden, die im Privatbereich nicht so möglich ist.
Ich bin d'avis que la prostitution est une bonne chose parce que les hommes ont ainsi avec la prostitution la possibilité de dégager leur agressivité, de dégager leur frustration et de trouver une certaine satisfaction sexuelle.
Vous vous voyez comment ? Vous vous considérez comme une infirmière de la sexualité publique ?
Krankenschwester ist falsch, Sozialarbeiterin.
Pas une infirmière, plutôt une assistante sociale.
C'est ça. Est-ce que les hommes vous parlent beaucoup ?
Ja, viele Männer sprechen auch über private Sachen. Viele kommen einfach nur, um Sex zu haben. Viele kommen, um einfach nur mal zu reden und sich auszusprechen. Und Sex ist eher so die Nebensache dabei.
Oui, oui. Beaucoup d'hommes nous parlent, effectivement. Il y a certains hommes qui viennent pour le sexe et il y a certains hommes qui viennent pour parler. Et le sexe, c'est simplement quelque chose d'annexe.
Vous êtes parfois les psychanalystes du pauvre.
Ja, so kann man das sagen, ja doch. Also,
oui, on peut dire ça.
Und da setzt die Psychologie der Frau ein, indem sie dem Mann zeigt, dass er sich stark fühlen darf.
Et c'est là qu'intervient la psychologie de la femme, en ce qu'elle fait que l'homme se sente fort.
Wenn sie hier rausgehen, sind sie große, starke, glückliche Männer.
Quand ils sortent d'ici, ils sont des grands hommes forts et heureux.
Donc c'est un bon endroit. La maison d'envie est un bon endroit.
Maison d'envie, c'est une chaleur. Oui. Okay.
Danke schön, Regina. Danke.
Tschüss.
Ce qui est formidable, c'est que ce petit bordel, il est au fond d'une cour, tout à fait tranquille, tout à fait familial. Il n'y a que la petite loupiote rouge qui signale l'existence du bordel, quoi.
Ça
C'était un reportage avec Guy Banquetil, traduction Marina Touyez et Isabelle Penaud, montage Catherine Pinto. Merci à Regina Gortz, Lucie et Sandra. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis ». À la technique aujourd'hui, Fabien Laléouz, Alain Armstam et Jean-Philippe Jeanne. Réalisation Coy Nguyen et Franck Adhérer. Assistante Agnès Lebot, chef du répondeur Marina Touyez. Le numéro du répondeur de « Là-bas si j'y suis », c'est le 01 56 40 37 37.
Un client.
Maison d'Anguiche, guten Tag.
Solange ich jagen kann nach Fragen und die Antworten nichts sagen. Solange ich ganz für mich alleine durch die Sumpfgebiete eile. Ist alles schön verwirrt und fremd und ich bin ganz in meinem Element. Solange ich hohn lachen kann über Zuversichtlichkeiten. Solange es genug Idioten gibt, die sich gerne mit mir streiten. Misstraue ich jedem zufälligen Glück, denn ich hab Angst vor dem Menschen an sich.
France Inter, il est 16h. Les informations, Sarah Guibaudot.
La neige s'éloigne, l'alerte de Météo France est levée. Les conditions de circulation sont désormais bien meilleures, notamment en Île-de-France où les poids lourds ont été autorisés à reprendre la route. En revanche, c'est toujours la pagaille dans de nombreux aéroports parisiens, Roissy, Orly, mais aussi Londres ou Bruxelles. Bruxelles où par manque de liquide de dégivrage, aucun avion ne pourra décoller demain. Comptez aussi des retards sur le rail. Les TGV notamment continuent à rouler moins vite dans le Nord, l'Est et l'Aquitaine. Un jeune homme de 17 ans s'est suicidé vendredi soir en prison. Il a été retrouvé pendu avec ses draps dans sa cellule de la maison d'arrêt de Tours. Le mineur venait d'être incarcéré après s'être échappé d'un centre d'éducation fermé. Le patron de la Poste en route pour un nouveau mandat. Le conseil d'administration a proposé ce matin de reconduire pour 5 ans Jean-Paul Bailly. Il sait depuis le début du mois que Nicolas Sarkozy a donné son feu vert. Reste aux parlementaires à se prononcer avant que sa nomination soit officialisée. C'est peut-être symbolique, mais une première sanction à l'encontre de Laurent Gbagbo, le président ivoirien sortant. Son épouse et 17 de leurs proches devraient se retrouver interdits de séjour dans l'Union européenne. Les 27 doivent approuver cette mesure mercredi. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, lui, doit se réunir pour prolonger la mission des casques bleus qui arrive à son terme à la fin de l'année. Sur place à Abidjan, la mission des Nations Unies a dénoncé ce midi des enlèvements et exécutions sommaires visant des opposants au pouvoir et même des tentatives d'intimidation à l'encontre des forces de l'ONU, Grégory Phillips.
Depuis son bâtiment aux allures de bunker qui surplombe la lagune d'Abidjan, le patron de l'ONU en Côte d'Ivoire, Yang Jichoy, pointe clairement du doigt Laurent Gbagbo, qu'il accuse de mener une campagne délibérée contre l'ONUCI et notamment contre ses personnels, en envoyant à leur domicile la nuit des jeunes gens armés pour y chercher des armes et leur demander la date de leur départ. La population civile est également victime de ces violences, avec plusieurs morts et des centaines de personnes portées disparues.
Aux premières estimations font état d'au moins 50 morts, 200 blessés et 470 arrestations et détentions arbitraires en plus. De nombreux cas de disparition sont également signalés. Les auteurs de crimes devront être tenus pour responsables. Comme le dit Winston Churchill, si vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. l'on aussi continuera de faire son travail.
Les casques bleus souhaitent enquêter sur ces cas de disparition, mais souvent sont empêchés de se rendre dans certains quartiers, empêchés aussi de ravitailler en eau et en nourriture l'hôtel du Golfe où se réfugie toujours l'autre président Ouattara. À qui attribuez-vous ces violences? La réponse de M. Choi est catégorique. Tout vient du clan Gbagbo. Au siège de l'ONU à Abidjan, Grégory Philips, France Inter.
12 personnes arrêtées à l'aube dans plusieurs villes du Royaume-Uni dans le cadre de la lutte antiterroriste. D'après la police britannique qui ne donne pas de détails, les suspects âgés de 17 à 28 ans préparaient un attentat terroriste.
Un jour tout neuf.
Un grand bonheur d'être ici.
Brigitte Patient.
Tous les jours, de 5h à 6h, mon invité sur France Inter, c'est vous.
C'est exceptionnel de venir à France Inter tôt le matin, c'est un grand plaisir.
Alors si vous avez envie de passer de l'autre côté du poste, si vous avez envie de venir en studio pendant une heure pour ouvrir la journée sur France Inter, c'est très facile.
Appelez vite le 01 56 40 45 45 ou connectez-vous sur franceinter.com et laissez-nous un message.
Les auditeurs en ont rêvé, vous l'avez fait en gros.
5h, 6h. Un jour tout neuf, du lundi au vendredi, sur France Inter.
France Inter. France Inter.
La différence.
Et à l'écoute de France Inter, il est 16h04, l'heure de retrouver le carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric L'Odéon.
Et bonjour Sarah. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et bon courage à tous ceux, toutes celles bien sûr, qui sont coincés, soit dans les aéroports, soit sur les routes. Enfin, je sais que c'est vraiment quelque chose de très difficile. Parfois, j'écoute les informations, comme vous-même d'ailleurs, sur France Inter, très régulièrement. Aujourd'hui, c'est la fête de Monsieur Eddy, alias Schmoll. Eddy Mitchell, bien sûr, qui est passé dans pas mal d'émissions, qui reviendra encore dans le 5-7 tout à l'heure. Et puis, il a été, quel lien avec la musique classique me direz-vous? Il a été le récitant de Pierre et le Loup, pas mal de comédiens, pas mal de chanteurs aussi se sont livrés à cet exercice. Et là, c'est particulier, c'est assez révolutionnaire parce que les instruments ne sont pas ceux indiqués par l'auteur. Par exemple, on peut citer le sheng qui représente l'oiseau, c'est donc au lieu de la flûte. C'est un très ancien instrument chinois, plus de 3000 ans, instrument avant, une sorte d'orgue de bouche en quelque sorte, des bambous dans lesquels résonnent des anches métalliques. Et on l'appelait le phénix autrefois. Il y a le hautbois d'amour qu'on entend assez fréquemment quand même. Il y a le serpent à la place du basson. Alors le serpent, c'est un instrument en bois, recouvert de cuir et qui évoque bien sûr la forme d'un reptile. Il a été inventé par un chanoine à Auxerre au XVIe siècle. Et ben voilà, il avait un petit peu de temps libre, on va dire. Les violons, violoncelles, alto, contrebasse, ça reste pareil pour le petit Pierre. Le canard, c'est le tible. Ben, c'est un petit hautbois qui fait partie d'un orchestre catalan, par exemple, pour jouer les fameuses sardanes en Catalogne. Bref, on ne suit pas la partition à la lettre ou les indications du compositeur. L'accordéon, par exemple, aussi, figure les loups au lieu des cors de l'orchestre symphonique. En tout cas, voici Monsieur Eddy dans le texte librement récité, librement adapté de Pierre et le Loup de Sergueï Prokofiev.
Bon, bah écoutez, si vous aimez les histoires, vous allez être gâtés. Oui, c'est vrai, non, c'est Pierre et le Loup. Bon, je sais, vous la connaissez peut-être, mais pas de cette façon. Alors voilà, je vous explique. Chaque personnage de l'histoire est représenté par un instrument différent. L'oiseau. Eh bien, l'oiseau, c'est le cheng. Le canard est représenté par le tible. Le chat, par le hautbois d'amour. Le grand-père, par le serpent. représenté par des accordéons. Les chasseurs sont représentés, et là, croyez-moi, c'est une énorme production, par des cornets à bouquins, une sac-boute, des grosses caisses, des pannes, on est comme ça. Quant à Pierre, eh bien lui, dans la famille Plumier, il est représenté par des instruments à cordes. Et maintenant, voici l'histoire. Un beau matin, Petit Pierre ouvrit la porte du jardin et s'en alla dans les grands prés verts.